Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Il est 6h11, bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue, c'est RMC, nous sommes le 14 septembre 2019 et nous allons passer encore une fois ce samedi et dimanche matin ensemble et c'est avec tellement de plaisir que je vous retrouve sincèrement. On va passer donc ces 4 heures, ces 4 prochaines heures avec, vous le savez, vos experts préférés. Tout à l'heure, la vie numérique avec Raphaël Grably. Dans le prolongement de l'émission de la semaine dernière, on va vous aider à bien vous équiper pour la rentrée. Les smartphones, les PC, comment choisir. Il y a eu pas mal de nouveautés cette semaine avec la conférence Apple, on y reviendra. La forme, la santé avec le docteur Christian Ekia qui sera avec nous aussi, qui va nous aider à bien choisir notre club de sport. C'est vrai que c'est l'une des résolutions de la rentrée. Il faut s'abonner à une salle de sport. Maintenant, il faut tenir l'engagement tout au long de l'année. On vous donnera des conseils tout à l'heure. Attention aux arnaques à l'isolation à 1 euro. Christian PC nous met les warnings sur ce sujet. Il veut nous mettre en garde. Ça sera notre gros dossier de ce samedi matin avec bien sûr vos questions et vos réactions au 32-16. Mais pour ouvrir le bal de ces 4 heures de week-end des experts sur RMC, et ce jusqu'à 7 heures, c'est notre expert jardin, sans doute le meilleur jardinier de France qui est sur RMC. Tous les samedis entre 6 et 7, c'est Patrick Mulan, mesdames, messieurs. Bonjour Miu-Miu.
Bonjour François, bonjour à tous, c'est très bienvenue au jardin, j'avais l'impression...
On se croirait un peu dans The Voice, c'est ça.
Ou d'être dans un match de boxe.
Oui, c'est ça. Oui.
Le speaker qui annonce les boxeurs.
Et en face de Patrick Mulan, Cactus.
Voilà.
Comme vous auriez du mal un peu à...
perdu d'avance.
Le boxer. Ou alors, il faut se recouvrir d'une espèce de protection, comme en escrime, vous savez.
Voilà.
Patrick, tout à l'heure, notre dossier de ce samedi matin, ça va être un sujet important. C'est le réchauffement climatique et le jardin. Vous vouliez évoquer ce sujet ce matin. Et on en parlait il y a quelques minutes, juste avant de commencer cette émission. Vous êtes un peu inquiet concernant cette rentrée qui est un peu particulière dans le jardin, en tout cas dans notre région, Île-de-France.
Alors là, on vit la dernière semaine de l'été, mais on continue à être sur un temps particulièrement estival. Vous avez entendu tout à l'heure Jérémy avec les températures qui montent jusqu'à 32 degrés dans certaines régions de France, 27 à Paris encore aujourd'hui. Il n'y a pas une goutte d'eau qui est annoncé, et pour la semaine prochaine c'est à peu près pareil. Donc on continue à être vraiment sur de la sécheresse, on continue à être sur de la forte température, et on va profiter en fait de ces situations un peu extraordinaires, et surtout d'une étude qui a été menée par la société Promesse de Fleurs là, il n'y a pas longtemps, pour parler de tout ça. Parce que est-ce qu'il va falloir que l'on modifie notre comportement de jardinier, j'entends. Est-ce qu'il va falloir que l'on modifie les types de plantes que l'on cultive? Ben ça, ce sont des vraies questions.
Est-ce qu'on va pouvoir enfin
avoir de l'eau? Ça, c'est une chose.
Alors non, mais avoir un bel olivier dans la région parisienne, ce qui est une hérésie encore aujourd'hui.
Oui, mais enfin, si ça continue comme ça, oui.
C'est ça. Et puis, bien sûr, toutes vos questions jardin. Ça, c'est le plus important, vous le savez. À tout moment, vous pouvez nous joindre. Nous vous donnons la parole sur RMC, le 32-16, pour joindre Patrick Mulan. La question, bien sûr, vous pouvez questionner, mais aussi réagir au sujet qu'on évoque avec Patrick Mulan, le 32-16 ou via l'appli RMC et Direct Studio. Bienvenue dans ce Week-end des Experts sur RMC. Et avant de retrouver notre conseil de l'expert de ce samedi, on va parler des abeilles. Bien, avant tout cela, c'est Pierre que nous accueillons. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour François, bonjour Patrick.
Bonjour Pierre,
bonjour aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierre du Haut-Rhin.
Oui, précisément de Sickert, qui est situé à une trentaine de kilomètres de Mulhouse, donc dans la vallée la plus au sud de toutes les vallées alsaciennes, au pied du Ballon d'Alsace, si vous connaissez.
Ah oui, bien sûr.
Ah, le Ballon d'Alsace, oui, c'est Jean-Luc Moreau qui connaît très bien, d'après ce que j'ai compris, notre expert jardin.
Oui, tous les cyclistes aiment bien le Ballon d'Alsace également.
Et aussi. Alors Pierre, vous êtes sur RMC, bienvenue en tout cas, et on vous écoute, Patrick Mulan vous écoute.
Voilà, donc avec mon épouse, nous avons acheté une maison il y a à peu près 3 ans, sur un terrain d'habitation de 10 arts, et en bordure de ce terrain se trouve ce que j'appelle un bosquet, en fait, sur lequel était donc de dimension d'à peu près 60 mètres de long par sur 3 mètres de large. Sur ce bosquet avait poussé autrefois une sapinière, donc d'épicéa, et sapinière qui a été rasée à peu près il y a une vingtaine d'années. Et depuis, pousse, je dirais, un peu tout et n'importe quoi sur cet espace, mais notamment de la ronce qui envahit littéralement ce bosquet. Et bon, en termes d'entretien, je débroussaille, on va dire, à peu près une fois par an, début d'hiver, fin d'automne, lorsque les pousses sont un peu moins denses. Mais je constate que au début du printemps, bah, tout repousse de plus belle et envahit à nouveau ce terrain. Donc ma question est plutôt de savoir comment, en fait, éliminer, voire plutôt limiter la pousse de ces ronces qui envahissent tout ce terrain, quoi.
Eh ben, on peut pas. On peut pas. D'accord. Parce que non, mais vous avez la configuration totalement normale de ce qui se passe lorsqu'on fait de la déforestation, c'est-à-dire que on plante des arbres qui se développent, qui deviennent adultes et qui créent un écosystème dans lequel, notamment sous les sapins, il est difficile d'avoir une végétation tellement il y a de la densité, et puis aussi avec la chute naturelle des aiguilles, de l'acidité. Vous rasez tout ça, vous mettez à la lumière, et vous avez une végétation spontanée, qu'on peut appeler une végétation secondaire, qui arrive et qui se développe. Là, malheureusement, entre guillemets, ce sont des ronces. Les ronces, c'est extrêmement costaud, très envahissant, et piquant, etc., etc. Mais aujourd'hui, avec la législation, on n'a absolument plus rien, et ça, j'insiste bien, plus rien pour pouvoir éliminer les ronces autrement que comme vous le faites. C'est-à-dire donc d'utiliser une débroussailleuse ou une faucheuse, enfin ce qu'on peut avoir, pour pouvoir éliminer cette végétation. Donc, d'accord, soit vous décidez de remettre en culture tout ce talus, parce que j'ai vu les photos, en fait c'est quand même en plus un talus avec une pente très forte. Donc ça va être difficile d'y installer quoi que ce soit, soit vous arrachez petit à petit, parce que le fait de couper à la débroussailleuse, ça ne fait que supprimer la végétation aérienne. Tout ce qui est racinaire reste, et c'est là que la souche de la plante est vivace et permet à la ronce de redémarrer. En plus, vous la coupez au moment où ça lui fait le moins mal, si je puis dire. Vous dites, vous la coupez pendant en fin d'automne, pendant l'hiver. À ce moment-là, de toute façon, vous faites qu'une taille pour redémarrer au printemps. Si vous coupiez 3, 4, 5 fois dans la saison, pendant la végétation, chaque fois qu'il y a une repousse de l'ordre de 30 à 40 cm de hauteur, en 2-3 ans, vous risqueriez d'arriver à bout de ce type de plante, parce que ben, vous allez l'épuiser, vous lui empêcherez de développer sa végétation. En revanche, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que vous allez mettre à la place. Donc soit vous pouvez commencer à installer, on va dire, quelques arbustes à port étalé. Alors, bon, il y a des cotonéastères, il y a des millepertuis, il y a des plantes comme ça. Soit bah, vous laissez la végétation sauvage et puis vous profitez des mûres en ce moment. Il doit y avoir plein de mûres délicieuses à récolter.
Merci Pierre pour votre appel. C'était RMC 6h19. Il est temps de retrouver le conseil de Monsieur Miu Miu.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC, l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Les abeilles.
Abonnement alors. Patrick Mulan, attention, on va parler des des abeilles. Alors même si cette petite musique est assez amusante et rigolote, le sujet est un petit peu plus grave. Les jardiniers doivent aller au secours des abeilles.
Ben oui, tout à fait. On oublie quand même que les jardins, notamment les jardins privés, sont des zones d'une richesse en biodiversité bien supérieure à la campagne, bien supérieure. Donc, quand vous faites un champ de 3 ou 4 hectares de blé qui, en plus, n'a aucun intérêt pour les abeilles parce que ce ne sont pas des plantes que les abeilles visitent, bah, vous avez une monoculture qui est intéressante. Dans un jardin, on va planter plein de choses qui vont attirer les abeilles.
Donc, l'idée, c'est de se dire que les jardiniers sont là pour aider, porter secours en fait aux abeilles. Et quels sont les facteurs à l'origine de la mortalité croissante des abeilles aujourd'hui?
Alors, d'abord, cette mortalité croissante, elle est contestée par certains parce que, en fait, on s'est rendu compte que globalement, on a une disparition des insectes. C'est vrai que quand vous roulez maintenant pour aller en vacances pendant des kilomètres, vous n'avez plus les pare-brises couverts d'insectes comme on avait dans le temps. Donc, sur le plan global, la biomasse d'insectes est de plus en plus rare. Après, pourquoi on a cette disparition? Mais écoutez, c'est un ensemble de facteurs cumulés qui sont évidemment l'utilisation des produits chimiques, mais pas simplement des pesticides. La pollution que l'on a notamment joue aussi un rôle. On a un stress traumatique chez les abeilles qui est lié justement à la pénurie de nourriture parce qu'il y a de moins en moins de fleurs sauvages, etc. Et donc tout ça cumulé, plus bah, évidemment les maladies naturelles font qu'on a une régression des populations.
Patrick, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut inverser la tendance malgré tout et faire revenir les abeilles?
Oui, parce qu'en fait, la nature a un pouvoir de résilience et de régénération extrêmement puissant.
Donc, si elle nous pardonne quelques fois, on va dire.
Alors, oui, et puis parce que c'est, j'allais dire, c'est naturel, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est comme ça, oui.
Donc, de temps en temps, on a l'impression qu'il y a des creux, mais il suffit de remettre les conditions favorables pour que ça redémarre. Et je l'ai vu, ne serait-ce que cette année, en faisant des reportages, notamment dans une pépinière qui produit des rhododendrons. Les rhododendrons sont des plantes qui attirent bien les abeilles. Eh bien, il y avait énormément. Alors, d'abeilles, moins que de bourdons, mais des pollinisateurs, il y en avait. Donc, il suffit que nous augmentions la part de plantes que l'on appelle mellifères, c'est-à-dire des plantes qui sont soit nectarifères, elles produisent nectar, soit pollinifères, elles produisent du pollen, pour que, bien petit à petit, les populations reviennent. Alors, bien entendu, il faut aussi qu'il y ait des apiculteurs autour pour avoir des ruches qui soient là, mais globalement, avec cette prise de conscience, on voit qu'on installe des ruches en ville, et puis, n'oubliez pas, il n'y a pas que les abeilles domestiques, il y a aussi toutes les abeilles sauvages, qui elles, quand le jardin est bien entretenu, et maintenant de toute façon on n'a plus de pesticides chimiques dans nos jardins, on va petit à petit, je pense, revenir à des sources normales, enfin ou du moins à des niveaux normaux.
Est-ce qu'il existe beaucoup de plantes qui attirent les abeilles? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques plantes types?
Oui, alors il y en a énormément. Il y a d'ailleurs, l'interprofession horticole a publié une liste de plantes attractives où il y a plus de 200 espèces qui figurent, dont beaucoup sont des plantes tout à fait adaptées pour les jardins. Donc ça, vous pouvez l'avoir gratuitement sur l'Internet. Vous avez donc tout un listing et on vous dit si elle est nectarifère, si elle est pollinifère, quelle est sa valeur, etc. Ça, c'est très intéressant. Moi, je vais vous donner quand même quelques plantes, quelques voies. D'abord, les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, tous, sont extrêmement attractifs pour les abeilles. Alors, selon les régions, ne mettez pas des arbres qui ont une floraison trop précoce, parce que si vous avez par exemple les fleurs qui s'épanouissent au moment du gel, par exemple, ben les abeilles ne sont pas encore réveillées et les fleurs vont être détruites avant que les abeilles puissent travailler. Les framboisiers, qui sont aussi des fruitiers, sont très très attractifs. Alors bien sûr, le tilleul, l'acacia, l'aubépine, la lavande, le romarin, les agrumes aussi, bien entendu, l'arbousier quand on est dans le midi, là on peut faire même du miel spécifique avec ça. Une plante absolument mignonne comme tout qui pousse, mais alors comment, il y a rien à y faire, qui s'appelle la bourrache. La bourrache, c'est tout dufteux, c'est tout mignon, ça fait des petites fleurs bleues comestibles en plus, et les abeilles adorent ça.
D'accord.
Bêtement, on n'y pense pas, mais le lierre fait des fleurs très attractif pour les abeilles. Bon, les châtaigniers, c'est un peu grand. Les chardons. Alors, les chardons, il n'y a pas que des chardons sauvages désagréables. Il y a des jolis chardons décoratifs que vous pouvez mettre. Les genêts, la bruyère aussi. Et puis, toutes les fleurs des champs, toutes ces fleurs que vous pouvez trouver en mélange dans vos jardineries au printemps, que vous allez pouvoir semer comme ça dans les zone où vous n'avez pas planté, ou même, je dirais, entre les planches de légumes dans le potager. On oublie souvent, mettre des fleurs dans le potager, c'est vraiment aussi très très utile. Tiens, et le tournesol, c'est très décoratif un tournesol.
Mais... Et là aussi, ça attire beaucoup les abeilles.
Les abeilles adorent ça, les chevreuils.
Patrick, ça n'attire pas que les abeilles, ces plantes-là, ça peut attirer les bourdons.
Oui, en fait,
moi sur ma terrasse, j'ai des bourdons qui viennent, j'ai des guêpes aussi.
Alors les guêpes, on en a moins besoin, mais les guêpes, elles sont omnivores.
Oui, elles s'intéressent aussi à ce qu'on a dans notre assiette, mais malgré tout, je les vois trifouiller dans les plantes. Hein.
Évidemment. Surtout lorsque la teneur en sucre se grossit énormément. Par exemple, si vous avez une poire sur laquelle il y a eu une blessure.
Oui, et qu'elle est...
Et que vous avez la chair qui commence à se caraméliser un peu. Vous allez voir...
Les guêpes viennent. Qui vont alors que les abeilles s'en foutent complètement.
Non, les abeilles, elles vont pas manger ça. Les abeilles ne consomment que du nectar et du pollen. Donc il faut des fleurs. C'est très, très important. Des plantes à fleurs et des plantes à fleurs simples. Parce que quand vous avez des grosses fleurs bien doubles, en fait, c'est toute la partie... étamine, pollen qui a été transformé en pétale, et donc c'est plus attractif du tout.
Voilà, un petit coup de main pour les abeilles. Patrick, on revient dans un instant sur RMC et on va parler du réchauffement climatique qui forcément a un impact sur notre activité jardin. Il est 6h26, vous pouvez nous appeler au 3216 pour poser vos questions, pour réagir. 3216 ou l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. A tout de suite.
RMC. 6h-7h. Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Le retour de ce week-end des experts, le jardin jusqu'à 7h. Et puis juste après, nous retrouverons Christian Pessé pour la maison de 7h à 8h avec, vous le savez, ces propositions commerciales qu'on a. On refait l'isolation de votre maison pour 1 euro. Voilà, parce qu'évidemment, il y a des aides, hein, les aides de l'État cumulées à des prêts, etc., qui font que parfois ça peut coûter que 1 euro. Attention, malgré tout, il y a des arnaques, bien sûr, puisque vous le savez, à chaque fois, on va dire, il y a des personnes inconvenantes qui profitent un petit peu de ce type d'aubaine, de niche. On en parlera tout à l'heure donc avec Christian Pessé. Mais dans l'immédiat, le jardin, Patrick, et on va évoquer le réchauffement climatique et le jardin.
Voilà, on va évoquer cela à travers une enquête qui a été diligentée par la société Promesse de Fleurs, qui est donc un producteur de végétaux, et qui s'est dit effectivement, avec la sécheresse, la chaleur qu'on a eue en 2019, il y a forcément eu des dégâts dans les jardins. Est-ce que les jardiniers vont modifier leur comportement? Comment les gens réagissent? Et pour cela, nous avons invité au téléphone Pascal Guyot, qui est le président fondateur de Promesse de Fleurs. Bonjour Pascal, bienvenue avec nous.
Bonjour.
Donc, avant toute chose, peut-être quand même deux petits mots sur Promesse de Fleurs pour qu'on vous situe un petit peu.
Alors, Promesse de Fleurs, c'est une pépinière qui est installée depuis 70 ans maintenant dans le nord de la France, assez loin de la majorité de vos auditeurs. On est dans les Flandres.
mais on a beaucoup de monde dans le nord maintenant aussi.
C'est bien.
Donc c'est une pépinière qui vend surtout par internet, hein, vous avez carrément 18 000 variétés proposées en ligne. Alors pourquoi avoir enquêté donc sur le comportement des Français avec justement ces évolutions climatiques?
On a eu l'idée du sondage parce que cet été, peut-être pour la première fois vraiment, la sécheresse, on l'a vraiment senti partout, même dans le nord, chez nous. On a eu des vrais gros dégâts à la pépinière, même en arrosant bien sûr. Et puis surtout, on a entendu nos clients au téléphone, sur Internet, et à partir du mois de juillet, c'était un peu la panique partout, c'était sec. Et les gens ne savaient plus quoi faire avec les restrictions d'eau. Et on s'est dit, il faut qu'on comprenne un peu mieux ça, où on en est et où en sont nos clients.
Et donc, en fait, vous avez diligenté une grosse enquête, puisque vous avez eu plus de presque 6000 consommateurs donc, qui ont répondu. Donc, quels sont les grands enseignements que vous ont apporté cette enquête?
Alors, les résultats sont intéressants parce qu'ils montrent qu'il s'est passé quelque chose cet été dans la tête des jardiniers. Je crois qu'il y a eu un déclic. On a eu par exemple 96% des jardiniers qui disent qu'ils vont devoir adapter leurs pratiques de jardinage. On en a plus de 60% qui disent on va devoir fortement ou très fortement adapter nos pratiques. Donc il y a eu quelque chose qui a bougé et il y a eu une forme de prise de conscience que le changement climatique, l'instabilité climatique avait un impact concret maintenant sur les jardins.
Alors quand ils disent qu'ils veulent changer leurs pratiques, ça va passer par quoi ?
Alors ce que disent les jardiniers, c'est d'abord on va acheter des vivaces résistantes à la sécheresse. Il y a 83% des jardiniers qui disent ça, ce qui est tout de même assez colossal. Et c'est assez logique en un sens parce que c'est les plantes vivaces qui ont été les plus touchées. Les arbres, les arbustes ont plus de racines, un système racinaire plus profond, ils résistent mieux.
Oui, donc en fait, pour nos jardiniers débutants, il y en a certains, une plante vivace, c'est une plante qui vit plusieurs années, donc qui va, par sa souche, par son développement racinaire, rester dans le sol, même après l'hiver, et revenir, mais on a besoin donc de plantes qui sont effectivement en résistance à la sécheresse. Alors en revanche, on se retrouve un peu, on va dire, dans un paradoxe, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que même si en 2018 déjà, bon, cette année tout particulièrement, on a eu de la sécheresse, on a eu de la forte chaleur, on n'est quand même pas au Sahara. Donc on va forcément avoir des périodes pluvieuses. Or, beaucoup, beaucoup de plantes très résistantes à la sécheresse sont des plantes qui ne supportent pas l'humidité. Alors il va falloir encore une fois aussi s'adapter.
Oui, tout à fait. Parce que ce que disent les clients, c'est il nous faut des plantes qui résistent au sec, mais ils disent aussi il faut des plantes moins exigeantes en eau, à 2/3. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que la moitié disent on va adopter des végétaux mieux adaptés au climat et au sol. La moitié, ça fait beaucoup. Et ça, c'est effectivement exactement ce que vous dites, Patrick Mulan, c'est-à-dire que c'est à la fois planter qui résiste mieux au sec, parce que c'est une problématique que maintenant on trouve partout dans les jardins, mais c'est aussi on va planter adapté à chez nous. Et ça, c'est un peu plus compliqué, parce que ça peut être très sec en été, ça peut être très froid en hiver, ça peut être très humide.
Donc là, vous avez des solutions pour ça, cette quadrature du cercle un peu là.
Alors, vous savez, on a 18 000 végétaux à la pépinière, c'est large de nos, et donc on a des solutions pour à peu près tout. Mais non, très concrètement, en fait, la question que doit se poser chaque jardinier, c'est qu'est-ce que c'est que mon terrain? Qu'est-ce que c'est que mon exposition? Il y a un élément qui est absolument critique, c'est la nature du sol. Est-ce que le sol est lourd? Est-ce qu'il est drainant? Oui. Parce que, en fonction de ça, on va planter des choses différentes. Si on a un sol qui est drainant, aujourd'hui en France, tant qu'il y a du soleil, on peut planter n'importe quoi. Oui. Si le sol est plus lourd, avec le froid en hiver, il y a des risques de pourrissement racinaire sur des choses qui craignent le froid. Mais on peut citer des variétés qui tiennent quand même à peu près partout en France, même en situation de sécheresse.
Pascal et Patrick, nous avons Geoffroy au 32-16 qui souhaitait réagir justement sur ce sujet. Bonjour Geoffroy.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bienvenue sur RMC. Alors vous êtes chauffeur poids lourd, vous nous écoutez, oui, J'imagine, régulièrement. Merci en tout cas de nous être fidèles et d'avoir pris 5 minutes pour réagir à ce sujet. Vous habitez dans le Vaucluse et vous avez constaté, à côté de Cavaillon, hein, pour être précis, et vous êtes impacté par cette sécheresse aussi, Geoffroy.
Oui, j'avais appelé au mois de mai, je crois, parce que j'avais un cerisier qui faisait vraiment la gueule. Et bah, il a fini par sécher complet, il est mort. Et du coup, mon jardin, j'avais des tomates, des courgettes et tout. J'ai commencé par arroser et puis j'ai fini par abandonner parce que même en arrosant, mes pieds de tomates, ils ont séché sur place. Quoi.
Oui, alors c'est ce qui est étonnant. J'en parlais avec François Sorel juste avant le début de l'émission. C'est qu'on constate, surtout en cette saison, qu'en dépit des arrosages, et moi je le vois dans notre jardin, notamment avec les hydrangeas, donc les hortensias, on les arrose, même beaucoup. Et malgré tout, en deux jours, hop, ils refont la tête. Vous avez les feuilles qui baissent. On a des vignes, par exemple, qui ont déjà les feuilles cramées. François a son érable qui est déjà comme à la fin de l'automne.
Ah bah oui, là, il est tout rouge. Et
pareil, j'avais trois vignes que j'ai plantées il y a 2 ans. Et les trois vignes, elles sont mortes cet été aussi, elles ont séché.
Geoffroy, est-ce que vous envisagez de changer les plantes que vous avez dans votre jardin pour peut-être trouver des variétés qui s'acclimateraient mieux à cette sécheresse?
Oui, carrément. Je pense que je vais vraiment changer les trucs parce que ça sert à rien de consommer de l'eau pour la gaspiller non plus, quoi.
Ça aussi, c'est sensé comme réflexion.
Et donc du coup, ça m'amène à une question.
Merci Geoffroy, merci pour votre appel.
Pascal Griot, justement, l'arrosage, c'est un petit peu aussi la mère de tous les résultats. Est-ce que les jardiniers ont pu arroser correctement leur jardin cet été? Il y avait quand même pas mal de restrictions.
Et il y a eu les deux tiers de la France en restriction d'eau, donc tous les jardiniers se sont retrouvés face à un dilemme. Il faut qu'on arrose beaucoup, et en même temps, on n'a pas le droit d'arroser. Donc c'était un peu catastrophique. Alors les clients nous ont dit moitié-moitié à peu près. La moitié ont dit j'ai plus arrosé parce qu'il fallait, et la moitié ont dit j'ai moins arrosé parce qu'il fallait respecter les restrictions en eau. Mais des gens comme Geoffroy, hein, que je salue, il y en a eu beaucoup. On a 20% des répondants qui nous ont dit on a perdu au jardin des choses qui étaient installées depuis de nombreuses années. Donc c'est très classique. Alors comment sortir de ce dilemme? Il y a quand même des moyens. Hein. On peut pailler. Oui. Pailler avec n'importe quoi, ce que vous avez au jardin, avec des débris de tonte, avec des restes de feuilles, même avec du carton. Ça permet de garder beaucoup mieux l'eau. Ça, c'est quelque chose, c'est un geste qui est maintenant assez pratiqué. On a la moitié des gens qui nous disent qu'on paille. Mais on peut aussi, et c'est beaucoup moins pratiqué, tout simplement biner.
Hein. Oui. Un binage vaut deux arrosages.
Voilà, c'est ça, un binage vaut deux arrosages.
Exactement, c'est le vieux dicton, c'est tout à fait ça, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand la terre est sèche en profondeur, comme actuellement, quand on arrose, même abondamment, l'eau ne pénètre pas. Et il faut un binage pour que l'eau puisse pénétrer en profondeur. Donc, les bons gestes, c'est biner, pailler, arroser très abondamment, pas trop souvent. Et plutôt tard le soir ou tôt le matin, parce que c'est là que l'eau pénètre dans le sol et s'évapore pas immédiatement.
Parfait.
Si on arrose un peu tous les jours, ça sert pas à grand chose quand la terre est très sèche.
Merci beaucoup Pascal Rioux pour tous ces conseils précieux. Merci. Rappelons que vous êtes président fondateur de Promesses
de fleurs. Ou sur l'internet.
On revient dans un instant, 6h42, la météo du jardinier, vos questions et les coups de cœur de Patrick Mulan. À tout de suite, c'était RMC.
RMC. Jusqu'à 7h. Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
C'est le retour de ce week-end des experts jardins avec Patrick Mulan jusqu'à 7h. Dans un instant, Jean-Marc va nous parler de son bougainvillier, mais auparavant, c'est la météo du jardinier. Vous le savez, cette semaine, Patrick Mulan scrute les cartes de Météo France et nous dit ce qui va se passer. Jérémy Souliman nous l'a confirmé, ce week-end s'annonce beau, chaud. Est-ce que ça va continuer, Patrick?
Oui, on va dire que pour simplifier, on va avoir une semaine quasiment similaire à celle que l'on vient d'avoir. Donc, on a des vents qui sont, en ce moment, pas très, très, très définis, mais ils sont très faibles. Et puis après, ça va s'orienter plutôt un peu nord-est. Donc, on va avoir de la sécheresse encore et on va avoir des matinées fraîches, voire très fraîche dans certaines régions, comme par exemple autour de Reims. Par exemple, vers jeudi, il peut faire un petit 4 degrés sous abri, donc risque de petites gelées blanches dans ces régions-là, voire dans le Massif central. Mais ailleurs, on aura une matinée autour d'une dizaine de degrés, entre, mettons, 8 et 10 degrés, entre 15 et 20 degrés sur le sud, et dans la journée, c'est l'été.
Oui,
soleil, une vingtaine de degrés en moyenne et jusqu'à 30 dans les régions les plus, disons, sud de ce pays. Donc voilà un peu la position. Donc côté jardin, il faut continuer justement à entretenir le jardin avec de l'arrosage régulier. Encore une fois, alors là, vous pouvez peut-être éviter la douche le soir, surtout dans les régions où il risque de faire un peu froid. En revanche, dans la fin de journée, avant le crépuscule, vous pouvez quand même regarder comment sont les feuillages, parce que en ce moment, ce sont surtout les feuillages qui souffrent, et leur donner un petit peu d'eau. Il n'y a pas de risque de mouiller les feuillages maintenant avec des maladies cryptogamiques. On est en fin de saison. De toute façon, les feuilles vont tomber et les ennemis et maladies cette année, ils ont été très tranquilles. Donc voilà, c'est vraiment la vraie semaine d'été pour la dernière semaine de l'été.
D'accord. L'été indien, quoi, finalement. Quoi que l'été indien, c'est en automne. On enchaîne maintenant à 6h48 avec Jean-Marc qui est là au 32-16. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour. Bonjour Patrick. Merci pour le livre, là, le grand livre du potager sans insecticides que j'ai acheté.
On avait parlé la semaine dernière.
Oui, alors écoutez, je l'ai acheté. Bon, je voudrais juste, à propos de cet été de la sécheresse, dire que j'ai eu un jardin absolument extraordinaire, resplendissant, productif, mais il y a un grand mais. J'ai un problème, un souci avec la noctuelle de la tomate. Alors, Peut-être la prochaine fois, je ne sais pas, vous me direz ce que je dois faire l'an prochain pour prévenir ça. Voilà.
Bah, la noctuelle, c'est un papillon, donc vous pouvez traiter avec le bacillus thuringien 6, donc le BT, qui est...
Je n'avais pas prévu, si vous voulez, je n'avais pas prévu cette attaque parce que je n'avais jamais eu. Alors je perds un tiers de la récolte avec la noctuelle.
Eh oui, bien sûr. Mais ça, c'est... Donc, là, on est obligé d'intervenir sur les ravageurs maintenant, juste au moment où ils arrivent. Donc il n'y a pas de piège à faire.
Alors, sur la prochaine, j'utiliserai le BT à quel moment par rapport à la croissance du pied de tomate?
Alors, le problème,
où les tomates se forment, à quel moment je mettrai le BT?
Ben, c'est pas très commode à savoir, parce que normalement, il faudrait qu'on ait des pièges à phéromones pour savoir à quel moment les papillons volent, pour pouvoir justement intervenir juste au bon moment.
Un piège spécifique.
Mais ça n'existe pas. Non, mais dans le commerce, vous n'avez pas, dans le commerce jardin, des pièges à phéromones pour la noctuelle de la tomate. Vous avez pour le Carpocaps, vous avez pour la pyrale du buis, mais on n'a pas pour ça. Donc on va dire que à partir de la floraison de la tomate, vous avez intérêt à traiter une petite fois par semaine, quand même.
Oui, parce que c'est la première fois en 45 ans de jardinage que ça m'arrive.
Alors peut-être aussi que c'est un papillon qui est plus actif, parce que nous on n'a pas ce problème en Île-de-France par exemple, mais qui est plus actif avec la chaleur qu'il y a eu cette année. Hein. Mais bon, on peut pas dire que la pression des ravageurs cette année était très importante, mais c'est vrai que si on a ce mouvement de changement climatique, on va avoir encore d'autres ravageurs exotiques, entre guillemets, qui vont arriver, et d'autres qui actuellement sont concentrés dans le midi, par exemple comme certaines cicadelles, comme le papillon du géranium, peut-être même le papillon du palmier, qui risquent de remonter vers des zones plus septentrionales, et ça c'est quand même assez inquiétant.
Jean-Marc, le piège à phéronome, je ne le trouverai pas quoi, pour la noctuelle.
Non, je ne pense pas qu'il y en ait. Regardez sur Internet, mais je ne pense pas qu'il y en ait pour la noctuelle de la tomate, non.
Jean-Marc, vous avez une
question. Un autre sujet, donc,
s'il vous plaît.
À votre collaborateur là, Gilles Val, que il y a deux ans j'ai offert un bougainvillier à mon épouse qui l'an dernier donc a fleuri, magnifique fleur, il est très beau, et cette année il n'a pas fleuri une seule fois. Alors elle m'a dit qu'elle l'aurait traité, mais je ne sais pas combien de fois elle l'aurait, disons, enrichi avec de l'engrais pour agrumes. Est-ce que c'est ceci qui expliquerait cela? Et une amie, l'autre jour, dans la discussion, nous disait qu'on aurait dû mettre de l'engrais à fraisier. Enfin, je me dis qu'il est peut-être trop tard pour faire tout ça, mais que faudra-t-il faire pour l'an prochain? Voilà.
Donc là, il est trop tard, effectivement, pour espérer une floraison. Bon, franchement, moi, j'ai vu la photo que vous avez envoyée. J'ai le même à la maison et qui veut pas fleurir. Il faut qu'on les retaille assez drastiquement. C'est-à-dire que toutes les pousses qui se sont développées cette année, il faut les retailler à peu près à 2-3 feuilles.
Maintenant?
Non, on va le faire à la fin de l'hiver, hein, au moment où il y a le redémarrage de la végétation, de manière à favoriser, on va dire, des ramifications secondaires. Changez-le peut-être d'endroit, simplement, hein. Il faut aussi se dire que quand une plante ne fleurit pas, c'est que l'endroit où on l'a installé, comme il est en pot, vous pouvez le mettre ailleurs. Donc, plein soleil, plein cagnard pour le bougainvillier. Et puis, voilà, il faut surtout le tailler. L'engrais, lui, n'a pas joué, parce que l'engrais pour agrumes favorise aussi bien la floraison. L'engrais fraisier ou l'engrais tomate fonctionne également. Il existe des engrais bougainvillier, pas beaucoup, dans certaines marques, mais de toute façon, un engrais pour arbre fruitier ou pour fruits, ça peut aller très très bien.
Patrick, on termine avec votre coup de cœur. Je pense malheureusement qu'il n'y en aura qu'un, vu l'heure qui tourne. Qu'est-ce que vous avez sélectionné pour nous?
J'avais un coup de gueule et un coup de cœur. Le coup de gueule, c'était quand même de voir comment on récupère au niveau politique l'histoire qui se passe actuellement avec la volonté d'interdiction des pesticides dans la proximité des villes. Vous avez Paris, Lille, Nantes, Grenoble et Clermont-Ferrand qui jeudi, là, ont dit maintenant, nous interdisons l'utilisation des pesticides sur notre territoire. C'est de la com pure et simple, dans la mesure où déjà depuis 2017, tous les espace vert public, on ne peut pas traiter, du moins avec des produits d'origine chimique, et que dorénavant, les jardiniers qui habitent aussi en ville ou ailleurs ne peuvent pas le faire non plus. Donc ça, c'est n'importe quoi. C'est pour essayer de faire parler, et surtout, c'est une méconnaissance totale du propos, parce que si on écoute ce qui était prévu, à savoir de dire il faut éloigner les traitements de 150 mètres des habitations, vous imaginez l'impact que ça va avoir sur notre production agricole. C'est n'importe quoi. Le coût que ça peut représenter aussi pour les agriculteurs. Donc on est complètement à perdre la tête. Donc il ne faut pas faire ça. D'autant que les agriculteurs traitent de façon extrêmement précise.
Bien sûr.
Parce qu'ils ont des appareils qui le permettent.
Tout à fait. Et puis leur objectif, c'est que ça leur coûte le moins cher possible. Donc ils ne mettent pas de surplus de pesticides.
On a toujours cette idée de l'avion qu'on voyait dans le temps.
Mais oui.
Déversait des quantités de poudre partout.
C'est terminé.
Il y a belle lurette que c'est terminé. Donc arrêtons de dire n'importe quoi.
Patrick, vous gardez vos coups de cœur dans votre besace pour la semaine prochaine.
Exactement.
Il n'y a pas de souci. Patrick Meudan, chaque samedi, 6h-7h sur RMC. Ouais. Et dans un instant, c'est la maison avec Christian PC. Bonjour Christian.
Bonjour François.
On parlera de ces arnaques. Salut, à l'isolation à 1 euro. Attention,
attention. Parce que ça n'est pas une arnaque en soi.
Mais on peut en avoir.
On peut risquer d'être victime d'éco-délinquants. C'est une
nouvelle expression. Ça peut être
des campagnes de pub ahurissantes.
Ouais, justement, on va parler aussi du harcèlement téléphonique.
Mais ça peut être aussi une bonne affaire. Hein. On ne va pas aussi dénigrer ces offres à 1 euro.
Les jardinières, je vous embrasse. Ouais. Ma petite jardinière aussi. Et à la semaine prochaine. Bonne émission, Monsieur Cricri.
Merci.